l'été avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité. Exprimez-vous sur la victoire de Donald Trump. Beaucoup de réactions sur la page Facebook de l'émission. Jacques affirme que Donald Trump doit remercier le directeur du FBI. C'est lui qui a semé le doute sur Hillary Clinton. Ibrahim est convaincu que Donald Trump est une chance pour le monde car il veut entretenir de bonnes relations avec Vladimir Poutine. Flavien nous dit ce n'est pas Donald Trump qui a gagné, mais plutôt Hillary Clinton qui a perdu. Trump n'a fait que profiter de l'impopularité de Clinton et d'ajouter les Américains seront très vite déçus par le populisme de Donald Trump car, je cite encore l'auditeur, le populisme n'est qu'un effet de masse et n'est fondé sur aucune idéologie. Au standard, Abdelkader est toujours en ligne. Vous êtes toujours là, Abdelkader ?
Oui, salut Juan.
À Bamako. Et vous disiez juste avant le journal que vous avez tiré trois enseignements de cette élection américaine.
Oui, Juan, je rappelle. Je disais que le premier enseignement qu'il faut tirer de ces élections, c'est qu'il faut éviter que des hommes, des candidats, viennent se pointer à des élections sans un programme bien précis, bien conçu et avec des discours populistes juste pour drainer la masse.
Oui, mais enfin, excusez-moi, avant d'aller au deuxième point, excusez-moi Abdelkader, il a été investi par le Parti républicain, donc ce sont les militants républicains qui l'ont désigné.
Oui.
Et mais c'est ça la démocratie.
Non, c'est pourquoi j'ai parlé de discours populiste. Ce monsieur n'a fait que prendre des mots, des termes juste pour pouvoir atteindre la masse. Ce n'est pas sur un programme bien concis, ce n'est pas sur un programme bien défini qu'il est parvenu à drainer même les républicains. Ça, il faut le comprendre. C'est pourquoi je dis, le deuxième enseignement, c'est le fait que les Américains, à travers Donald Trump, ont incarné leurs aspirations profondes. Ce qui est très grave. Parce que l'Amérique est un pays les États-Unis sont des pays d'immigration et à la base, on ne peut pas entendre aujourd'hui un Donald Trump xénophobe, un Donald Trump raciste et grossier en même temps. Et donc, ça veut dire que les Américains sont en train de perdre le Nord parce qu'ils veulent se renfermer sur eux-mêmes, ce qui est inadmissible.
Mais vous avez écouté certainement, comme tout le monde, son premier discours hier. Je serai le président de tous les Américains, a-t-il dit.
C'est ça, là, c'est ce qui prouve qu'il est controversé. Parce qu'il y a une très grande fracture entre ses discours de campagne et son discours qui est le discours où il a été élu président. Ce monsieur n'a fait que mettre la poudre aux yeux et il ne pourra jamais tenir ce qu'il a dit lors des campagnes, il ne pourra non plus faire ce qu'il veut parce que les Américains vont se rendre très vite compte que ce n'est pas l'homme de la situation, c'est juste l'homme qui a profité de la situation. Le troisième enseignement, Juan, c'est le fait qu'aujourd'hui, à travers le monde, je me rends compte que la vertu n'est plus une valeur cardinale pour départager les hommes. On ne pourra jamais avoir une planète tranquille tant que la vertu ne permet pas de départager les hommes. Aujourd'hui, il ne faut pas quand même comparer Madame Clinton à Donald Trump. Si tu prends le cursus, si tu prends l'expérience, si tu prends la connaissance même des dossiers de la planète, il n'y a pas de comparaison. Donc ce monsieur ne peut pas apporter une tranquillité si on avait regardé les vertus et on allait se rendre compte que très rapidement, c'est pas déjà à comparer.
Oui. Enfin, des auditeurs, notamment Bachir sur Facebook, nous disent que l'élection de Donald Trump est la conséquence d'une série de scandales politico-juridiques dans lesquels Clinton était cité. Il y a d'abord eu la primaire démocrate, émaillée de contestations, ce qui a donné l'impression aux Américains qu'on voulait leur imposer un candidat. On sait que voilà, le parti a tout fait pour imposer Clinton au détriment de Bernie Sanders. L'auditeur poursuit en disant, il y a eu l'affaire des emails, grave erreur. Tout de même, là c'est moi qui le rajoute, d'Hillary Clinton que d'utiliser sa messagerie mail personnelle alors qu'elle est secrétaire d'État des États-Unis et que c'est formellement interdit par la loi. Et cet auditeur estime qu'avec l'affaire des emails, ça a laissé le sentiment soit de l'impunité de Madame Clinton ou d'une certaine mainmise de la Maison Blanche pour étouffer cette affaire. Hillary Clinton n'a pas non plus laissé l'image d'une femme transparente, à Rajoutons à cela évidemment son malaise. Le 11 septembre dernier, il y a eu vraiment une grossière erreur de communication. On n'a pas dit clairement la vérité aux électeurs. Donc une fois de plus, ça a renforcé le sentiment que Hillary Clinton était une femme qui cachait certaines choses. En tout cas, Abdelkader, c'était un plaisir d'avoir discuté avec vous. On continue évidemment à vous donner la parole. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Bonjour Isaac.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Ouagadougou et vous relativisez mais totalement la victoire de Donald Trump.
Oui Juan, je suis étonné que le monde soit un peu ait peur de l'élection de Donald Trump. Pour moi, Donald Trump va rien changer à la politique américaine. Nous sommes en politique aujourd'hui. Quand vous regardez ce qu'a fait Tsipras, quand vous regardez ceux qui ont battu campagne pour l'élection, pour le Brexit, c'est le populisme. Les politiciens disent aujourd'hui ce que les électeurs veulent entendre. Ils utilisent la peur des électeurs. Une fois qu'ils ont élu, fondamentalement, ils ne changent rien. Quand en Angleterre, il s'agissait de reprendre le poste de Premier ministre, celui-là même qui a battu farouchement campagne pour le Brexit, a refusé de déposer sa candidature. Je pense que le monde a peur. Donald Trump ne changera pas grand-chose dans la politique américaine.
Il y a beaucoup. Par exemple, son élection suscite une certaine inquiétude sur le continent africain. Beaucoup de pays africains s'interrogent maintenant sur, par exemple, l'aide économique au développement, l'aide au développement des États-Unis. Est-ce que tout sera balayé d'un revers de la main par Donald Trump?
Écoutez, les présidents américains ne se sont vraiment pas investis dans l'aide à l'Afrique. Si tu prends Barack Obama, il a toujours créé des institutions fortes, mais fondamentalement, il n'a pas changé grand-chose par rapport à ce qu'il devrait faire pour les Américains. C'est-à-dire qu'il faut que les Africains arrêtent aujourd'hui de penser que c'est un président américain qui doit changer leur situation. Ça s'est dépassé. Que les Américains élisent leur président pour eux-mêmes d'abord. Maintenant, s'il y a des subsides qu'on peut donner à l'Afrique, on donne à l'Afrique. Mais les Américains n'ont pas élu leur président pour les Africains.
Évidemment.
Désolé.
Et l'Afrique a été la grande absente de la campagne électorale. L'Europe aussi, précisons-le. Il a rarement été question du continent européen, sauf lorsque les candidats évoquaient notamment l'OTAN. Merci à vous de nous avoir appelés. Bonne journée donc à Ouagadougou. Abdoulaye, vous êtes à Londres.
Oui, bonjour Juan.
Bonjour. Vous disiez au Standard avoir la gueule de bois ce matin.
Oui, effectivement, je faisais le parallélisme entre le Brexit, effectivement, avec l'élection de Donald Trump. Effectivement, les deux cas sont caractérisés, effectivement, par l'incertitude, comme l'ont dit mes prédécesseurs. On s'inquiète beaucoup. Et moi, en tant qu'Africain d'origine, je commence vraiment à me poser des questions sur l'avenir des programmes comme l'AGOA et des programmes américains pour soutenir l'Afrique.
Ouais. Donc, j'entendais d'ailleurs ce matin notre correspondante à Johannesburg, Alexandra Brangeon, dire que l'AGOA avait permis de créer 60 000 emplois en Afrique du Sud et principalement dans l'agriculture et l'automobile, et qu'un tiers des produits sud-africains qui étaient exportés aux États-Unis grâce à ce programme AGOA, donc qui exempte de taxes un certain nombre de produits africains, et bien ça permettait de faire vivre des milliers de familles rien qu'en Afrique du Sud.
Oui, absolument. Comme vous l'avez dit, même si les experts même se posent la question, donc je pense que j'ai bien raison de m'inquiéter là-dessus. Donald Trump est nationaliste, il ne l'a pas caché. Il veut se concentrer sur l'Amérique. Et malheureusement, nous vivons dans un monde globalisé où les pays, les nations et les chefs d'État doivent se mettre ensemble pour discuter donc des grands problèmes qui minent le monde.
Ouais. Et en même temps, certes, il n'a pas parlé du continent africain durant toute sa campagne électorale, mais il reste néanmoins un homme d'affaires et il sait qu'aujourd'hui le continent sur lequel on peut faire des affaires, c'est le continent africain. Il est en concurrence directe d'ailleurs avec la Chine. La Chine est omniprésente sur le continent africain, donc il ne va pas, on va dire, fermer les yeux sur ce continent. Il va forcément s'y intéresser.
Bon, on ne peut que le juger sur ce qu'il a déclaré et sur ce qu'il a dit jusqu'ici. À ma connaissance, il n'a aucun programme, il n'a déclaré aucun programme dans le sens de soutenir l'Afrique et de continuer des programmes comme l'AGOA. Donc je reste quand même assez pessimiste.
Bon, merci beaucoup, merci de nous avoir appelé. Bonne journée à Londres, et précisons que parmi les conseillers sur la politique étrangère, Donald Trump n'a pas de spécialiste du continent africain. Bonjour Moussa.
Oui, bonjour Juan, bonjour à vos auditeurs.
Très heureux de la défaite d'Hillary Clinton, avez-vous dit au Standard.
Eh oui, très heureux. Vous savez, quand on a annoncé hier la victoire de Trump, il y a une image qui m'est revenue dans la tête, c'est Hillary Clinton donnant une interview et la journaliste lui pose la question de donner son avis sur la mort de Kadhafi et les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Elle a ri aux éclats et puis elle a répondu « We came, we saw, he died ». Donc hier, quand on a annoncé sa défaite, je me suis dit bah, « Tiens, Dieu merci, que cette dame qui se réjouit de la mort de quelqu'un ne soit pas élue président. »
C'est juste pour ça.
Oui, pour ça. Et puis, parce que au-delà du cas libyen, cette dame représentait une menace pour le monde. Et c'est là, ça m'amène à penser du mythe.
Alors attendez, une menace pour le monde, argumentée, c'est une phrase choc, tout de même, ce que vous venez de dire.
Oui, justement, je partais dans ce sens-là. Les gens ont créé des mythes et des mensonges autour de Trump en disant que... J'ai entendu quelqu'un dire hier sur vos antennes, mais comment est-ce que les Américains ont pu confier l'arme nucléaire à un monsieur comme ça? Je voudrais les renvoyer aux propos de Donald Trump pendant la campagne. Trump a reproché, a attaqué et reproché à Hillary Clinton la guerre en Irak, que Hillary Clinton a soutenue. Il a reproché et condamné le soutien apporté par l'administration américaine aux rebelles en Syrie. Il a condamné et reproché à Hillary Clinton l'intervention en Libye. Il a notamment déclaré qu'il se rapprocherait de la Russie s'il devient président. Et il a dit pendant l'un des débats que sous sa présidence, l'Amérique n'a pas vocation à devenir le gendarme du monde. Alors, les gens passent tous ces propos-là sous silence et on crée un mythe, on crée un mensonge, on dit non, il a une menace pour la paix. Un va-t-en-guerre ne dit pas ça, contrairement à Hillary Clinton, qui s'est située dans la logique des néoconservateurs américains. Il faut intervenir par-ci, il faut intervenir par-là, il faut faire partir tel dirigeant s'il ne vous plaît pas. Je dis, c'est une chance vraiment pour les gens que Donald Trump soit élu président. C'est pas du tout une menace.
Ce que je retiendrai en tout cas dans votre analyse, Moussa, c'est que Donald Trump n'est pas un va-t-en-guerre. Merci de nous avoir appelés, vous étiez à Ouagadougou, bonne journée sur place. Amos, en région parisienne, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour aux auditeurs de RFI.
On vous écoute sur Donald Trump.
Oui, sur Donald Trump, je dirais que voilà un monsieur qui a commis toutes les erreurs qui auraient pu faire tomber tous les candidats aux élections américaines. Mais jusque-là, il est passé comme lettre à la poste. Ça veut dire que les électeurs ont placé beaucoup d'espoir en lui. Or, quand on voit l'exercice de la politique, on voit toujours la politique hors du pouvoir, autrement que lorsqu'on est dans le pouvoir. Maintenant que Donald Trump est dans le pouvoir, je ne pense pas qu'il puisse réaliser tout ce qu'il a promis. Je vous prends juste un exemple sur l'immigration. Donald Trump ne connaît pas ce qu'on appelle la misère. Il peut mettre un dôme en acier sur les États-Unis, il y aura toujours une immigration forte, parce que tout autour des États-Unis, il y a des pays pauvres. Donc, sur ce point-là, il va lamentablement échouer. Je prends un autre exemple.
Et puis, juste une précision, parce qu'effectivement, on peut reprocher aux médias de ne reprendre que les aspects négatifs, on va dire, du programme de Donald Trump. Faut quand même remettre les choses à leur place. Barack Obama a expulsé bien plus de sans-papiers que son prédécesseur George Bush. Donc, Barack Obama n'est pas une colombe en matière de politique d'immigration.
Voilà, tout à fait. Donc, à un moment donné, il faut que les gens sachent que les peuples ont des problèmes. Dans chaque pays du monde, les peuples ont des problèmes. Et ces peuples-là, les dirigeants politiques, en fait, ceux qui aspirent à la suprématie, à la présidence des différents États, ne disent que ce que les peuples veulent entendre. Et même si, et je le regrette une fois de plus, ça veut dire que c'est l'électeur qui sera floué. C'est-à-dire qu'il a élu un président sur la base d'un programme, mais arrivé au pouvoir, il fera autre chose. Donald Trump ne pourra jamais réaliser ce qu'il a promis.
Bon, bah, en tout cas, on verra ça à partir du 20 janvier, puisque pour l'instant, il est président élu jusqu'au 20 janvier. Il rencontrera d'ailleurs dans la journée Barack Obama à la Maison Blanche, voilà, pour une transition en douceur. C'est ce que souhaite d'ailleurs le président Obama. Merci à vous, Amos. Bonne journée. Nous allons en Bretagne, c'est bien ça, puisque Jean nous appelle de Brest. Bonjour, Jean.
Oui, bonjour, Juan.
Nous vous écoutons.
Alors, donc moi, je voulais juste intervenir pour dire que vraiment, ça a été une belle brèche qui a été offerte quand même à Trump sur, comment on appelle ça, les dîners soi-disant frauduleux de Hillary. Donc, il a vraiment profité, pour moi, en tout cas, il a profité de cette brèche et il s'est engouffré là-dedans et du coup, ça a créé le basculement des voix. Donc, du coup, pour moi, franchement, les FBI est franchement en grande responsabilité là-dedans, parce que juste deux jours après les élections, ils ont décidé d'abandonner...
Deux jours avant les élections. 10 jours avant, voilà. Le FBI dit « Nous ouvrons finalement une nouvelle enquête », alors que quelques mois plus tôt, le patron du FBI avait dit « Bon, certes, elle n'a pas respecté la loi, mais ça ne justifie pas de poursuite. » 10 jours avant, revirement donc du patron du FBI en disant une nouvelle enquête est ouverte. Et puis, comme par hasard, 3 jours après, il revient sur sa décision, donc pas de poursuite. Ça signifie quoi pour vous, Amos, que le FBI finalement n'était pas si neutre que cela dans cette campagne électorale ? C'est le sentiment que vous avez ?
Oui, tout à fait. Pour moi, le FBI est complètement parti pris pour Donald Trump. Je ne sais pas pourquoi, donc ça on verra dans les années à venir. Mais voilà, ça annonce vraiment pas quelque chose de très clair par rapport à ce que, par rapport à l'ambition, disons, au niveau, à l'ambition militaire ou j'en sais pas quoi, des ambitions des États-Unis par rapport à plein de choses, je sais pas pourquoi, mais cette élection est vraiment, c'est un carrefour. C'est un gros piège, c'est un gros carrefour là. Bon. Et il va falloir suivre Trump de très près.
Bah écoutez, parce que, comptez sur les journalistes pour le suivre de près, Jean. Merci beaucoup. Bonne journée à Brest. On va terminer, puisqu'il nous reste à peine 3 minutes, avec Oumar. C'est bien ça, à Bamako. Bonjour Oumar.
Bonjour Johan, comment allez-vous ?
Très bien, ravi de vous avoir sur l'antenne d'RFI. On vous écoute.
Moi aussi, rassurez-vous.
Je n'avais pas d'inquiétude. Allez-y, Oumar.
Oui, moi, je suis dans la droite lignée d'un intervenant, celui du Burkina, qui était vraiment ravi de l'élection de Donald Trump. Je trouve que c'est une très bonne chose. Et les Américains, par l'élection de Donald Trump, ont envoyé en fait à la Maison-Blanche celui qu'ils voulaient voir à la Maison-Blanche, pas celui que le système voulait leur imposer. Parce que, à regarder la campagne, le déroulement de la campagne, on a comme l'impression que les médias, les politiques, les experts, les politologues, les spécialistes, les analystes politiques, tout le monde était unanime pour soutenir Hillary et l'envoyer à la Maison-Blanche. Au point qu'on pensait que le jeu était déjà fait. Et c'est ce qu'on a fait, en tout cas, c'est ce qu'on a voulu nous faire croire. Mm-hmm. C'est ce qu'on a voulu faire croire au peuple américain.
Et Oumar, pour vous, alors ni vous ni moi sommes américains, mais évidemment on s'intéresse à l'élection de la première puissance mondiale. Mais vous, en tant que citoyen du monde, si vous me permettez cette expression, vous attendez quoi maintenant d'un Donald Trump ? Que peut-il faire de mieux qu'Hillary Clinton ?
Donald Trump, d'abord Hillary Clinton, quand on regarde le bilan d'Hillary Clinton, mon prédécesseur l'a dit, elle a soutenu la guerre en Libye, elle a soutenu la guerre en Irak, elle soutient la rébellion en Syrie, mais elle n'est pas moins va-t-en guerre que George Bush, que tous les médias ont qualifié de gendarme ou de soldat du monde. Mmh. Alors que Donald Trump, au contraire, quand il essaie de se désengager l'Amérique de ses théâtres de guerre. Mmh. Il veut que l'Amérique s'occupe de lui-même d'abord. Que l'Amérique s'occupe de ses citoyens d'abord. Donc, lui, il n'a pas de souci de guerre.
Oui, ouais, en tout cas, sur le dossier syrien, qui est évidemment la priorité numéro un aujourd'hui sur le plan international, si on en croit ses propos et ses réactions,